Festival Rock des Vieilles Charrues, c'est donc du 18 au 20 juillet à Carhaix et dans le Finistère, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Yann Rivoile, merci. À la page sportive de ce journal, la 10e étape du Tour de France cycliste, une étape longue de 210 km qui va mener les coureurs de Gap à Marseille. Le départ a été donné à midi moins le quart, un tour cycliste dont l'intérêt a été relancé en quelque sorte par l'abandon dramatique hier de l'Espagnol Beloki et la victoire du Kazakh Vinokourov qui n'est plus qu'à 21 secondes du maillot jaune Lance Armstrong. On retrouve Fabrice Abgral sur la moto dans le sillage des coureurs.
Et le point sur la course tout d'abord, au kilomètre 80, 9 hommes sont actuellement en tête et parmi eux, deux Français, Philippe Gaumont et Damien Nazon. Ces 9 coureurs ont démarré au kilomètre 16. Ils possèdent au dernier pointage 10 minutes et 40 secondes d'avance sur le peloton. Aucun des échappés n'est dangereux pour Lance Armstrong. Alors Lance Armstrong, justement, il n'affiche pas forcément cette année la sérénité qu'il affichait lors des 4 éditions précédentes. C'est la première fois depuis 99 qu'à mi-parcours, on peut dire que rien n'est joué. Jusqu'à présent, et c'était une constante à l'issue des premières étapes de montagne, Lance Armstrong tuait le tour. Cette année, ce n'est pas le cas. Armstrong est sous pression, il n'a que 40 secondes d'avance sur Vinokourov et 1 minute 02 sur Iban Mayo. Bref, aujourd'hui, c'est nouveau. Les prétendants au podium ne se contentent pas de suivre Armstrong. Désormais, il l'attaque, il le provoque et il le bouscule. L'Américain doit se méfier de tout et de tout le monde. Et la chute hier de Beloki a rappelé aux Texans qu'à tout moment, tout peut basculer. Sur la route du Tour, Fabrice Abgral, France Inter.
La route du Tour de France, dont vous retrouverez les 100 dernières minutes de cette étape cet après-midi dès 15h en direct sur France Inter. Grandes ondes en compagnie de tous nos envoyés spéciaux. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve à 19h et vous laisse en compagnie de Rose Raguel.
Merci Serge Martin. C'était le journal de Serge Martin et tout de suite la météo de Joël Collado de Météo France.
La météo avec Daikin, climatisation et chauffage pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
Le temps change près de l'Atlantique, il fait très chaud en allant vers le nord ou vers l'est. Sur les régions voisines de la façade océanique, la dégradation du temps va se poursuivre, les averses se multiplieront. Ces averses éparses du Finistère à la Vendée prendront sur le littoral aquitain un caractère orageux, du Pays Basque au Bordelais, aux Charentes, jusqu'à l'embouchure de la Loire, région placée en vigilance orange. Les orages avant la fin de l'après-midi s'accompagneront de violentes averses, de fortes bourrasques de vent. En soirée, ce temps très orageux s'étendra vers la Gascogne, le Limousin, l'Anjou et toute la pointe de la Bretagne. À l'avant de cette dégradation, la chaleur restera écrasante. Des Flandres à l'Île-de-France au nord-est, en Rhône-Alpes, l'après-midi sera caniculaire. Les températures dépasseront les 30 degrés. Il fera 35 degrés cet après-midi à Paris. Le tonnerre grondera ce soir sur le relief. Sur les régions voisines de la Méditerranée, le vent de sud ou de sud-est atténuera un peu les ardeurs du soleil. Sur le Roussillon et les plages du Languedoc, ce vent venu de la mer maintiendra un temps très brumeux. Demain, sous un ciel d'orage, orage parfois violent dans l'intérieur du pays, la canicule s'effacera lentement.
France Inter, il est l'heure de retrouver Patrice Gélinet dans une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui la plus grande construction de l'histoire, la muraille de Chine.
Nul n'est un homme tant qu'il n'est pas monté sur la grande muraille. Mao Tse-tung.
D'histoire. Depuis les côtes de la mer Jaune jusqu'à la porte de Jade au bord du désert de Gobi, la grande muraille de Chine est si longue qu'elle est, dit-on, la seule construction humaine que l'on pourrait voir à l'œil nu depuis la Lune. Mais il fallut des siècles pour que les premiers voyageurs occidentaux découvrent les 3000 km de pierre, de briques ou de terre de cette muraille construite il y a plus de 2000 ans, quand la Chine était encore divisée en plusieurs états, les royaumes combattants. Ces royaumes de Qi, de Yen, de Shao, de Han, de Wei, de Chu, et le royaume de Qin, dont le souverain, Qin Shi Huangji, le bâtisseur de la grande muraille, rêvait de faire de la Chine un état unifié.
Le royaume de Han aura bientôt disparu. C'est vrai, Han sera bientôt détruit. Mais alors, vous serez devenus les sujets d'un empire bien plus vaste. Qin et les autres royaumes, toutes choses sous le ciel aussi loin que porte le regard, formeront un seul empire. Tous ceux qui vivent sous la voûte céleste en seront les sujets. sur cet empire-là, régnera un seul monarque. Ce monarque, les sept royaumes, une fois unifiés, étendra sa protection au monde entier.
Michel Jean, bonjour.
Bonjour. Alors,
vous avez écrit le texte d'un très beau livre qui vient d'être publié aux éditions de l'Imprimerie Nationale, La Grande Muraille de Chine. Alors c'est une construction bien sûr qui nous fascine, non seulement en raison de sa taille, de sa longueur, mais aussi à cause de son âge. Elle a plus de 2000 ans, vous vous dites qu'au fond, elle date en fait exactement de la création, de l'apparition, de la naissance de la Chine.
Si on associe les murailles qui ont précédé l'unification chinoise, c'est même de plus de 2500 ans que date ce monument. Mais déjà, on voit tout de suite l'amalgame qui est fait entre des constructions diverses qui étaient dans le centre de la Chine. Vous avez parlé des royaumes combattants et tous les monuments qui se sont construits par la suite sur 2000 ans environ d'histoire. Et de ce fait, on entre dans des explications nécessaires pour bien distinguer les différentes périodes, alors que l'on a en général l'image linéaire, simple, d'un seul monument, alors qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus complexe.
Et de peut-être plus long qu'on le dit. J'ai dit 3000 kilomètres, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs murailles, vous le rappelez, et notamment les premières construites par ces royaumes combattants, qui déjà d'ailleurs à la fois dressaient des murailles entre eux, hein, avant que la Chine ne soit réunifiée, et puis contre des envahisseurs extérieurs qui les menaçaient déjà.
C'est vrai. Alors les chiffres qui ont été cités sont les plus divers. 3000, 5000, jusqu'à 30 000. Et en fait, on ne connaît pas exactement la longueur de ces murailles, puisqu'il faut parler des murailles, c'est ce que fait le grand historien Jacques Vernet, en parlant des murailles de Chine. Alors, l'essentiel sur 2000 ans d'histoire a été justement la tentative, il s'agit bien de tentative par les Chinois, agriculteurs, sédentaires, de se défendre contre des populations nomades, de cavaliers, qui harcelaient ces établissements permanents. Et au cours de ces successions de dynasties, ces tentatives multiples ont donné un ensemble, et je crois que c'est plutôt la notion qu'il faut garder, qui s'étend sur environ 3000 km d'est en ouest, mais également sur 500 à 1000 km du nord au sud. Et c'est ça la véritable dimension des grandes murailles.
Alors ces dynasties, elles n'apparaissent qu'à partir de la fin, enfin d'il y a un peu plus de 2000 ans, c'était en 221, je crois exactement avant Jésus-Christ, lorsque un des rois de ces royaumes combattants finit par réunifier la Chine, prend le nom de Qin Shi Huangji, c'est-à-dire premier empereur de la dynastie Qin, et décide de construire la Grande Muraille.
Plaise à sa majesté cette carte d'un empire unifié. Le peuple connaîtra la paix et la prospérité. Des routes rejoindront les frontières. Au loin s'étendra une grande muraille qui protégera nos sujets et nos villages des chevaux des barbares. Je ferai ériger une stèle de pierre sur le montagne et une autre sur le rivage de la mer pour commémorer l'unification du monde.
En réalité, Michel Jean, en construisant la Grande Muraille, cet empereur, Qin Shi Huangji, ne réunifie pas le monde, il le divise en deux. Hein, d'un côté les barbares, de l'autre la civilisation, d'un côté les nomades, de l'autre côté les sédentaires. Et alors, avec un projet qui est absolument pharaonique, si je puis dire, c'est vraiment cette muraille, quelle que soit sa longueur, elle traverse, on le voit d'ailleurs sur les photos de votre livre, des régions très accidentées.
Alors, le premier souci de l'empereur, c'est de séparer le monde civilisé, le sien bien sûr, sur lequel il règne, de celui des barbares, qui se trouvent au nord en l'occurrence, et d'affirmer ainsi la différence entre deux mondes. Le premier empereur, en fait, unifie un certain nombre de murs qui existaient déjà, qui avaient été édifiés sur les limites nord de la Chine actuelle par plusieurs royaumes combattants, et sur environ 5000 kilomètres, il réunit de la côte est du Porail jusqu'aux portes du désert un ensemble en rajoutant aussi quelques défenses naturelles, des montagnes, des fleuves, et ceci va constituer la première notion de la Grande Muraille, la première muraille, la Grande Muraille du premier empereur.
Oui. Alors celle qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, parce que d'abord elle a été construite avec des matériaux très différents, évidemment en fonction des régions qu'elle traversait, c'était tantôt de la terre, tantôt de la pierre.
C'est essentiellement des constructions, certes solides puisqu'il en reste encore, mais qui étaient vulnérables au temps, au vent, aux intempéries d'une manière générale, et qui se distinguent très nettement de celles que nous connaissons le plus facilement accessibles au nord de Pékin, qui, elle, est beaucoup plus récente, puisqu'elle date des Ming, en gros, du 15e au 17e siècle.
Et on y reviendra à l'ouest, par exemple, près du désert, ou à travers les limons qui sont près du fleuve jaune. Là, en revanche, c'est de la terre.
C'est de la terre avec des assemblages d'herbes sauvages, qui des terres tassées, qui ont résisté au temps, puisqu'ils faisaient appel à des techniques peut-être primitives ou sommaires, mais en tout cas qui ont été qui ont résisté au siècle.
Alors même si cet empereur utilise déjà des murailles déjà construites par les royaumes combattants, il est obligé bien sûr de les relier entre elles. C'est quand même une entreprise énorme. Combien de temps, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien de temps a pris cette première version de la Grande Muraille?
Alors selon les textes classiques, le Shéti écrit par l'historien Somatien, cela aurait pris 4 ans simplement si on ose dire, mais en mobilisant des centaines de milliers de personnes.
Entre 221 avant Jésus-Christ et
221 que l'unification de la Chine est datée, et c'est à ce moment-là également que cette grande muraille est établie dans cette région nord du fleuve jaune, mais nord également au nord des Yanshan, c'est-à-dire sur le rebord du plateau mongol.
Alors je suppose, Michel Jean, que ça a nécessité une quantité absolument phénoménale d'ouvriers, cette construction.
Alors, l'historien Somatien, toujours lui, rappelle ou cite le chiffre de 300 000 personnes qui sont données au général Meng Tian. Mais on y rajoute les personnes locales que l'on déplace, parce qu'il s'agit de grands déplacements de population qui vont durer également sous les Han et sous les autres dynasties qui ont construit ces murailles. Au total, ce monument a demandé des efforts colossaux qui ont été rapportés, rappelés aussi bien par des hommes politiques que par des poètes, pour regretter toute la tyrannie que représentait cet ouvrage.
Et qui ont été rappelés par des textes qu'a parcouru pour nous Stéphanie Duncan, la revue de textes.
Oui, l'histoire de la Grande Muraille, hein, c'est aussi celle des hommes et des femmes qui l'ont construite de leurs mains. On dit que des milliers de travailleurs y périrent. De cette histoire tragique, il reste des légendes transmises par la tradition orale. Une légende raconte par exemple comment l'empereur Qin força les paysans à abandonner les travaux des champs pour construire cette muraille. Comme il trouvait que les travaux n'allaient pas assez vite à son gré, parce qu'il manquait de personnel, Qin monta au ciel, où il s'empara de l'arbre à geler la terre. De là-haut, il le secoua tant et tant et si bien que la contrée fut bientôt recouverte d'une épaisse couche de givre qui anéantit les récoltes qui allaient mûrir. Alors, poursuit la légende, de désespoir et pour ne pas mourir de faim, les paysans durent venir travailler à la Grande Muraille. Une autre légende raconte assez joliment pourquoi la muraille n'est pas toute droite, mais sinueuse. Quand les fondations eurent été établies, une chute de neige suspendit les travaux, parce que les briques se ramollirent. Un dragon qui passait par là, oui, hein, il y a beaucoup de dragons, et un dragon s'endormit machinalement en s'appuyant sur le mur devenu fragile, et ainsi le dragon donna à la muraille sa forme gracieuse. Et si vous voulez savoir pourquoi la grande muraille n'a jamais été terminée, écoutez cette légende originaire du désert de Gobi. L'empereur Qin venait fréquemment sur le chantier pour surveiller l'avancée des travaux. Un jour, un dragon qui passait par là.
Ça, il y a beaucoup en Chine. Oui.
Alors ce dragon se mit à discuter avec les pauvres ouvriers qui étaient là et qui lui confirent que le puissant souverain érigeait cette muraille à l'aide de son fouet magique. Une jeune fille se jeta au pied du monstre en le suppliant de leur venir en aide. Le dragon, alors, se retira chez lui, ordonna à son épouse de descendre sur terre à son tour et de séduire l'empereur. Comme elle était très belle, hein, la femme du dragon, on ne sait pas si c'était un dragon elle-même, enfin bon, elle y parvint sans peine et au moment le plus favorable, vous devinez lequel, elle décampa avec le fameux fouet magique. Et c'est pour cette raison, conclut la légende, que la grande muraille ne fut jamais terminée. Très longtemps après l'empereur Qin, alors que d'autres pans du mur se construisent, au XIIe siècle, un poète chinois Lu Yu évoquera lui aussi les victimes oubliées de ce chantier interminable. On construit la muraille avec des cris rauques et tristes. La lune et la voie lactée paraissent basses auprès d'elle. Mais si on n'enlevait pas les ossements blancs des morts, il viendrait à même hauteur que la Grande Muraille.
C'est vrai, Michel Jean, on dit souvent que la Grande Muraille, c'était aussi le plus long cimetière du monde.
Oui, et tout cela sur plusieurs siècles, parce que ce pouvoir centralisé était non seulement impitoyable, mais il faisait aussi usage de toutes les populations qui étaient le long de la muraille telle qu'on l'édifiait. Mais il ne s'agissait pas seulement de cela, c'était aussi des zones de combat assez fréquents, et de ce fait, les victimes, sous une forme ou sous une autre, abondaient.
Il y a beaucoup de légendes, la part du mythe hein, de la Grande Muraille est importante. Vous citez une belle légende qui est celle de Meng Jianyu, je crois que tous les Chinois connaissent.
Et alors, vous avez raison de parler de mythe, parce que la Grande Muraille est en grande partie un mythe. On a dit déjà qu'il ne s'agissait pas d'une seule muraille, mais d'un ensemble de murs et de murailles. Et les légendes que nous venons d'entendre, il y en a d'autres, abondent sur ce monument. Alors vous venez de mentionner Meng Jianyu. Bien entendu, voilà encore un bon exemple de ce qui a pu évoluer au cours de l'histoire. En deux mots, cette femme a vu son mari réquisitionné par le pouvoir impérial pour se rendre sur le chantier de la Grande Muraille. Et n'ayant pas de nouvelles, Meng, sa femme, se rend, essaye sur place et essaye d'avoir de ses nouvelles. Elle apprend qu'il a été enterré dans la muraille. Elle sanglote et ses larmes font s'écrouler la muraille, ce qui fait qu'elle peut, à ce moment-là, donner à son mari une sépulture décente. Alors, il faut mentionner que cette légende, en fait, existait sans qu'il soit question de la Grande Muraille. Et c'est progressivement, et notamment sous les Tang, que ce monument apparaît et devient le lieu de cette histoire. Voilà un exemple donc de cette, à un point tel d'ailleurs que Meng Jianyu a un temple, une tombe même, et alors que c'est un personnage peut-être pas fictif, peut-être une réalité profonde, mais en tout cas qui n'a jamais existé d'un point de vue historique.
Non, parce que quand même faire tomber une muraille avec rien qu'avec des larmes, c'est quand même gros, d'autant plus qu'elle était impressionnante. Je crois qu'elle atteignait 8 mètres de haut à certains endroits, suffisamment large aussi à son sommet pour accueillir des cavaliers, parce qu'il y a des cavaliers qui se promenaient le long, au-dessus de la Grande Muraille.
Alors, les cavaliers circulaient non pas sur la muraille, ou peut-être accidentellement, mais plutôt en avant ou en arrière. Les cavaliers étaient faits pour éclairer.
Oui.
Mais on a également utilisé les remparts de la muraille pour expliquer que c'était une route possible. Et tout ceci fait partie justement du mythe de la campagne.
Alors une route est surtout une fortification. Michel Jean, il s'agit de se défendre donc contre des quantités d'envahisseurs potentiels. Vous les citez, les Xiongnu, les Wuzun, les Xianbiai. Et puis plus tard, il y aura les Mongols aussi.
Les Mongols apparaissent à partir du XIIe siècle. Et ce sont eux qui vont finalement rentrer en Chine et créer l'Empire Yuan. Mais les Mongols vont encore harceler toute la période Ming, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, et vont rester pendant une très longue période les assaillants essentiels de cet empire chinois.
On écoute un extrait du film de Gengis Khan de Henri Lévine.
Notre monde est comme trois grands cercles. Ici, à l'ouest, Samarcande et Bokhara, la terre des Persans.
Et là, qu'y a-t-il dans le centre ?
Oh, une terre vide, un pays désolé où seuls les Mongols vivent.
Et ici, à l'est ?
Je ne suis pas allé à l'est de ces montagnes, mais j'ai conversé avec des marchands venus par caravane. Et tous m'ont parlé de la Grande Muraille. Une muraille qu'ont bâti les Chinois pour défendre leur empire.
Alors cette muraille, elle n'a pas fait peur, Michel Jean, vous le disiez, à Gengis Khan et aux Mongols. Ils ont même donc construit eux-mêmes une dynastie qui était la dynastie mongole, je crois, qui a régné pendant 3 siècles à peu près, non c'est ça ?
Moins que ça, mais déjà, première remarque à faire, c'est que la Grande Muraille, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas du temps de Gengis Khan. Autrement dit, dans ce film, dans cette œuvre, on participe, on rajoute une pierre, si j'ose dire, au mythe de la Grande Muraille. Il existait bien sûr la Grande Muraille des Han, ou celle d'avant les Han des Qin, mais ce n'était qu'un simple mur, qui était d'ailleurs bien plus au nord que la capitale que Gengis Khan allait assaillir. Et Gengis Khan a tout simplement traversé une forteresse qui se trouvait à l'entrée de Nankou, de la passe qui est proche de Pékin, qui existe maintenant et qui est parmi la plus visitée, mais à l'époque, il n'y avait pas de grande muraille. Mmh. Mais ça ne fait rien, il faut participer justement à cette grande légende. Et voilà un bon exemple.
En tout cas, c'est un de ses descendants, Kublai Khan, qui va être un des empereurs les plus connus. C'est vrai qu'à ce moment-là, de la Chine, c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, les Mongols ne vont pas se défendre contre eux-mêmes, donc la Grande Muraille, il la laisse un petit peu tomber, jusqu'à ce que leur successeur, l'écha, jusqu'à, justement, jusqu'au Ming. Et là, ils construisent la Grande Muraille, vous le dites, telle que nous la connaissons, celle que nous voyons aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est la muraille des Ming, construite à partir de quelle époque à peu près?
Alors, ça commence en 1368 et ça va se terminer jusqu'à la fin de cette dynastie en 1644, lorsque les Mandchous rentrent sur le territoire chinois. Mais vous aviez raison de préciser que les Mongols, ayant étendu leur territoire, le territoire de leur empire, très largement au-delà de ces grandes murailles, n'avaient aucun souci, n'avaient aucune raison de soutenir ou d'entretenir ce monument. Les Ming, eux, au contraire, vont devoir supporter les attaques de ces Mongols, qu'ils ont repoussés un instant, mais qui revient à un point tel, d'ailleurs, qu'ils font subir une défaite très, très grave en 1449 près de Pékin, qui capture l'empereur. Et ce sera une obsession jusqu'à la fin de cette dynastie de construire des murailles pour empêcher ces populations nomades de venir sur les terres du Nord. La dynastie Ming se termine avec une ossification de la frontière, dans la mesure où c'est la seule réponse aux assaillants que trouvent les Chinois. Mais malgré tout, ce sont d'autres nomades, très sinisés, il faut bien l'admettre, les Mandchous, qui en 1644 vont franchir une des forteresses, avec l'aide d'ailleurs d'un général chinois, qui vont établir la dernière dynastie, la dynastie des Qing.
C'est pas très efficace cette grande muraille, si on vous entend, les Mandchous qui rentrent pratiquement sans combat et sur trahison. C'est un peu la ligne Maginot, Michel Jean.
Ça a été à certaines époques, effectivement, l'équivalent d'une ligne Maginot. Bon, bien sûr, on peut débattre longuement sur cette question. Il est vrai qu'à certaines périodes, les assaillants ont été contenus, mais qu'à chaque fois, l'Empire ou certaines dynasties s'est terminée par un déferlement de ces barbares. Et je crois que les Chinois ont gardé justement de ces périodes, d'un point de vue historique, une grande notion, c'est que le plus important, c'est l'unité interne du pays.
On y reviendra, mais il y a une chose qui est passionnante, c'est qu'on a parlé jusque-là uniquement de l'aspect défensif de la Grande Muraille. C'est vrai que c'est pour ça qu'elle a été construite. Et en même temps, vous rappelez que c'était un lien entre l'Est et l'Ouest tout le long de cette ou de ces grandes murailles. C'est tout simplement la route de la soie.
Oui, ce ne fut jamais une frontière. Ce ne fut jamais un obstacle. Mais effectivement, ce fut un lieu, une zone, un axe d'échange entre des populations très différentes qui se mêlaient, qui échangeaient par exemple pour les agriculteurs des céréales, de la soie, du coton plus tardivement, des produits qui leur manquaient comme des chevaux, de l'or, etc. Donc c'était vraiment une zone d'échange, pas seulement d'ailleurs en denrée, mais également d'un point de vue culturel. Les influences culturelles ont été extrêmement fortes à partir de ces zones d'échange entre des populations nomades et des populations sédentaires. D'où, finalement, des raisons de grand enrichissement de part et d'autre, non seulement sur la Chine du Nord, mais également vers la Chine du Sud, ou au-delà, vers le Nord, vers l'Asie centrale, et même jusqu'en Méditerranée. Vous avez mentionné la route de la soie. Sous les Han, la politique d'expansion et d'échange avec l'Asie centrale et au-delà avec le monde méditerranéen a été l'une des causes de la construction d'une partie de la Grande Muraille le long du corridor du Kansu.
Alors après l'installation de la dynastie des Mandchous, la dernière dynastie qui va régner sur l'Empire de Chine, la Grande Muraille n'est plus envahie aujourd'hui ni par les Mongols, ni par les autres peuples dont vous avez parlé, mais alors par d'autres envahisseurs beaucoup plus pacifiques, ce sont les touristes. Et ceux qui vont en Chine, qu'est-ce qu'ils visitent? Ils visitent cette portion de la Grande Muraille qui se trouve à 75 km je crois de Pékin, ou 70 km au nord de Pékin, autour de Badaling, c'est ça?
C'est tout à fait ça. C'est une caricature de la Grande Muraille, c'est un cliché, mais la Grande Muraille, je l'ai dit suffisamment, est quelque chose de plus complexe. Mais c'est aussi depuis quelques années, depuis 1984, le symbole d'une Chine unie, une Chine qui veut utiliser ce monument à des fins de modernité, ce qui peut paraître assez curieux, et qui est utilisé notamment par les populations qui sont de part et d'autre à des fins économiques, c'est-à-dire qu'il y a une restauration de nombreux villages ou sur la responsabilité de nombreux villages pour attirer ces peuples, ces populations de touristes et en tirer un profit qui n'est pas négligeable.
Mais Michel Jean, on les attire à cet endroit-là, donc essentiellement, c'est-à-dire au nord de Pékin, tout près de Pékin. Vous qui l'avez parcouru, je crois, à plusieurs endroits, qu'est-ce qui reste de l'extrémité occidentale de la Grande Muraille, celle qui est près du désert de Gobi, la porte de Jade, je crois qu'elle a pratiquement disparu. Je crois même que les Chinois avaient renoncé à la défendre, c'était fini, ils avaient raccourci le front, si on peut dire que, avec un langage contemporain. Mais vous l'avez vu, cette porte de Jade,
oui,
qu'est-ce qu'il en reste? C'est de la terre, c'est,
l'extrémité occidentale date des Han. C'est la porte de Jade que vous venez de citer. Cette porte de Jade était en fait une forteresse en terre battue, dont il y a encore des vestiges, qui est classée monument à protéger, même si il ne reste que des murs assez abîmés. Par contre, 300 km plus à l'est, il y a une forteresse qui est absolument superbe, surtout dans ces régions désertiques, qui est Tiayuguan, qui, elle, date des Ming, qui est de la fin du XIVe siècle, et qui comprend à la fois des remparts, mais également des toits avec une très belle architecture chinoise traditionnelle. Mais ce sont des régions qui sont moins visitées, parce que, bien sûr, bien éloignées des zones les plus classiques. Alors, c'est proche de Dunhuang, qui est un petit peu plus à l'est, mais ça reste quand même un endroit assez lointain.
Et puis chargé de symboles, je crois qu'on dit que les voyageurs chinois, quand ils passent la Grande Muraille, jettent un caillou sur la Grande Muraille, et si le caillou rebondit, c'est que le voyage sera heureux. En revanche, s'il tombe inerte, c'est un mauvais présage. Le symbole pour la Chine, parce que vous dites que ça représente beaucoup pour les Chinois aujourd'hui, ça peut paraître surprenant, non seulement parce que la Grande Muraille, elle est vieille, mais elle correspond quand même à un empire assez brutal. Je crois que du temps de Mao, d'ailleurs, on n'aimait pas la Grande Muraille, en tout cas à l'époque de la Révolution culturelle, on prenait les briques de la Grande Muraille pour fabriquer des hauts fourneaux.
Oui. Même aujourd'hui, pour la plupart des Chinois, la Grande Muraille est un symbole de douleur, de tyrannie. Alors, vouloir en faire un symbole moderne d'unité, pourquoi pas, ça demande un exercice nouveau qui a été lancé par Deng Xiaoping il y a quelques années. Et maintenant, cette Grande Muraille redevient un symbole de modernité. Et il faut que la population s'adapte à ces nouveaux slogans, avec parfois sans doute un scepticisme et beaucoup de réserve. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire.
Le slogan, c'était quoi? Je crois que c'était Deng Xiaoping qui l'a
dit. Deng Xiaoping, en septembre 1984, a sorti le slogan « Aimons la Chine, aimons la Grande Muraille, reconstruisons la Grande Muraille ». Et à partir de cela, ce slogan a été repris très largement et maintenant est devenu une phrase, un slogan très largement utilisé, enfin en tout cas officiellement.
Ça veut dire qu'elle risque de durer encore longtemps, elle qui a devenu...
La Grande Muraille a encore un grand futur, effectivement.
Merci Michel Jean, je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un très beau livre intitulé La Grande Muraille de Chine, avec des photographies de Roland et Sabrina Michaud, un livre édité par l'Imprimerie Nationale. À lire également Chine, vision d'un empire céleste, d'Hervé Beaumont, avec des photographies de Suzanne Held et édité chez Hermé. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'Empereur et l'Assassin de Chen Keige et Gengis Khan d'Henri Levine, tous deux disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christophe Goudin et Olivier Riotor, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet. C'était une émission déjà diffusée le 15 janvier 2003. Demain, dans 2000 ans d'histoire, présenté par Patrice Gélinet, les Touaregs. Et après les informations de 14h, retrouvez C'est comme à la radio avec Mathieu Vidard et ses incroyables chroniqueurs. Il a nommé aujourd'hui Sophie Lessort, Stéphane Cosme, Laurent Vallière. Bel après-midi sur France Inter, il est 14h. Les informations...